C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. Dans C'est dans l'art, ce qu'on aime, c'est découvrir de nouvelles œuvres et surtout de réagir. Ici, on discute sans complexe des thèmes qui sont présentés et on donne nos impressions tout simplement. On le fait pour vous donner envie de vous déplacer, de lire, de regarder, d'écouter. Et chaque mois, notre team vous parle de leurs recos, ce qu'ils aiment, ce qu'elles ont découvert, ce qui a fait vibrer. Et avec le temps, on a eu des profils qui se sont placés. Vous avez souvent reconnu Hugo et Isnel aux jeux vidéo, Violette à la musique ou au cinéma, Saphir ou Marie-Lou aux arts médiatiques, Diane à la BD et bien sûr Jeanne au tour d'actualité. J'en oublie beaucoup pour ne pas citer Ryan, Christophe, Chloé, Garance et tant d'autres. Et ce soir, on a des nouvelles têtes avec nous. Tout ça pour vous dire que C'est dans l'art, c'est du partage de beaucoup de personnes passionnées qui ne marcheraient pas sans Eléa et Fabrice, les piliers de cette émission. Allez, ce soir, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle émission. Alors, comme j'aime le dire, que vous soyez fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieuse, curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant. De quoi parlons-nous dans C'est dans l'art ce soir? On se balade dans les nouveaux espaces de la Fondation Cartier qui ont ouvert récemment. Côté cinéma, on part à la poursuite d'un Yeti avec le film L'incroyable Femme des Neiges. On revient sur la notion d'art déco avec l'exposition Paris 1925 à la Cité de l'Architecture. On se plonge dans un conte musical Orso et le secret des étoiles. Et enfin, on revient bien sûr sur la sortie choc du nouvel album de Rosalia dénommé Luxe. Encore de quoi s'inspirer dans tous les arts. C'est dans l'art, c'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur radiocampusparis.org. Amis curieuses, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Isnel.
Bonsoir.
Hortense.
Bonsoir.
Fabrice.
Bonsoir.
Jeanne.
Bonsoir.
Coréen.
Bonsoir.
Et Violette.
Bonsoir.
Prête et prêt avec leur chronique. À la technique, il y a comme d'habitude Eléa. Et je suis Léa pour vous accompagner au fil des chroniques de ce numéro de C'est dans l'art. Merci à vous tous et toutes d'être là ce soir. Commençons sans plus attendre.
C'est dans l'art. Sur Radio Campus Paris.
Allez, on commence cette émission avec le mythique tour d'actualité générale de Jeanne, on t'écoute.
Oui, que faire, que voir à Paris en novembre pour ne pas dépérir dans nos appartements trop sombres? Rien de plus simple, on peut commencer par aller voir une exposition, je vous en ai sélectionné une. Si vous faites un tour du côté du Palais de Tokyo, venez découvrir Echo Delay Reverb, art américain, pensée francophone, une histoire de la circulation transatlantique des idées à travers les œuvres d'une soixantaine d'artistes autour d'une grande variété de médiums. Pour découvrir comment, au fil des décennies, les artistes américains se sont emparés des grands penseurs et penseuses de la francophonie, de Foucault à De Beauvoir, en passant par Fanon, Césaire, Bourdieu ou Wittig, comment ces idées théoriques venues de France ont circulé et se sont traduites dans l'art contemporain américain. Cocorico, c'est à voir encore jusqu'en février. Du côté des arts de la scène, qui dit dépression saisonnière dit comédie musicale, évidemment. Alors en cette fin d'année, nous sommes servis à Paris avec trois spectacles que je vous conseille. Le premier, c'est Cher Evan Hansen au Théâtre de la Madeleine, la première adaptation française du spectacle Dear Evan Hansen de Justin Paul et Ben Spasek, qui est un immense succès à Broadway et à Londres depuis une dizaine d'années. L'histoire d'un adolescent anxieux et mal dans sa peau qui se trouve malgré lui impliqué dans un drame survenu dans son lycée. Toujours dans les adaptations françaises de grands classiques, Chicago, le chef-d'œuvre de Bob Fosse, est présenté au Casino de Paris cet hiver avec Chaim dans le rôle principal. On ne l'attendait pas là, mais ça promet d'être une réussite. Et enfin, au Théâtre du Châtelet, La Cage aux Folles met en scène Laurent Lafitte dans le rôle d'Albin, marié à Georges, patron d'un cabaret où Albin brille la nuit et devient la vedette Zaza, dans un spectacle culte devenu une ode à la diversité et à la célébration de soi. Alors tout cela coûte un peu cher, mais à l'approche des fêtes, ça peut être une bonne occasion de voir des productions ambitieuses, de grande qualité, même s'il faut mettre un peu de budget. Sans transition, Changement, changement total d'ambiance, mais pour les arts médiatiques, j'avais envie de revenir sur l'événement médiatique qui a marqué ce mois de novembre, à savoir les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 et les très nombreux contenus documentaires et de fiction qui ont été produits à cette occasion. Côté radio, France Inter a proposé une série documentaire en 5 épisodes intitulée « Ce que le 13 novembre a changé en nous » et qui détaille les conséquences de ces événements, à la fois la lutte antiterroriste et aussi le rapport à la population de ce risque terroriste. Et pour la fiction, on retiendra par exemple la série de France Télévisions « Des vivants » de Jean-Xavier de Lestrade, dans laquelle on suit le long parcours de reconstruction de 7 personnes otages du Bataclan qui ont vécu ensemble la prise d'otages. Ou encore la fiction radiophonique « Les terrasses » écrite par Laurent Godet et produite par France Culture qui raconte la nuit d'insouciance avant le drame. Selon votre intérêt et votre sensibilité, vous trouverez forcément un contenu pour mieux se souvenir ou mieux comprendre ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Dans l'actualité de la littérature, l'automne et la saison des prix littéraires, vous n'aurez pas manqué la remise du prix Goncourt à l'écrivain Laurent Mauvigné pour son roman La Maison Vide. Mais ce soir, j'avais envie d'évoquer un autre prix, un nouveau prix, le prix Goincourt, qui célèbre la diversité de l'écriture lesbienne francophone. 4 lauréates ont été distinguées pour cette première édition. Fatima Das pour Jouer le jeu, Wendy Delorme pour Le Parlement de l'eau, Nelly Slim pour Entre ici et avant, il y a la mer, et enfin Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière. D'autres voix à découvrir, donc moins médiatisées que celles qui reçoivent les plus gros prix, mais tout aussi passionnantes. Et pour finir, au cinéma en ce moment, allez découvrir Dossier 137 de Dominique Moll, qui avait été remarqué avec La Nuit du 12 il y a quelques années. Cette fois, il met en scène une autre enquête autour d'un cas de violence policière en marge des manifestations des Gilets jaunes, avec une Léa Drucker brillante en enquêtrice de la IGPN. Dans un tout autre style, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, particulièrement prolifique ces dernières années, est de retour après Pauvre créature et Kinds of Kindness, cette fois avec Bougonia. Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot enlèvent la PDG d'une grande compagnie, convaincue qu'elle est en réalité une extraterrestre dont la mission est de détruire la planète Terre. Léa, je pense que tu devrais te méfier de certains de tes chroniqueurs, ça pourrait donner des idées, comme ce tour de l'actu, je l'espère.
Merci beaucoup Jeanne pour un tour de l'actu toujours très perso. Allez, maintenant, passons au sujet du jour. C'est parti.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
C'est une des sorties d'albums qui a fait le plus de bruit en cette fin d'année 2025. C'est un projet complexe, poignant, innovant. Violette, tu nous parles du nouveau projet de Rosalie.
Tout a commencé avec ces quelques notes. Mais ces quelques notes annonçaient beaucoup plus. Cet air de violon a été posté sur les réseaux sociaux de la chanteuse espagnole Rosalía. Les signes s'enchaînent, la chanteuse apparaît en plein centre-ville de Madrid au volant d'une voiture, des photos d'elle sont affichées partout dans le monde, des extraits de clips apparaissent sur son Instagram. Et voilà, c'est officiel, elle annonce 3 ans après son dernier album Motomami, la sortie de luxe le 7 novembre dernier. Et alors que tous les fans de Rosalía trépignent d'impatience, le 27 octobre, le single Bergen sort enfin. Tout le monde se prend une claque. Perso, la première écoute du morceau me fait pleurer. La chanteuse, formée originellement au flamenco, devient soprano, accompagnée par le London Symphony Orchestra, l'un des plus réputés du monde. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que signifie Bergheim, c'est un club à Berlin dans lequel il est très très difficile d'entrer. Car Rosalía chante dans ce morceau à la fois en espagnol et en allemand. Elle reprend des codes de la musique classique qu'elle remanie et mélange avec un style plus moderne pour créer un titre plutôt hors du commun. Le clip aussi est à lui seul une œuvre d'art. Il cache de nombreux symboles et images qui peuvent expliquer la nouvelle ère musicale et philosophique dans laquelle est entrée Rosalía. Les thèmes du cœur brisé et du chagrin guident toute la vidéo, jusqu'au point où la chanteuse se transforme en une Blanche-Neige des temps modernes. En fait, la chanteuse explique qu'elle a toujours rêvé de faire un album de musique classique. Elle s'est enfermée 2 ans pour produire cet album. La première année, elle s'est attelée à la musique, puis pendant 1 an, elle a étudié les saints de dizaines de pays, les a reliés pour créer un récit et écrire les paroles. Les thèmes de la spiritualité et de la religion, qui ont toujours été assez présents dans ses chansons, prennent dans cet album une place encore plus importante. La chanteuse dit avoir besoin de lumière, d'unité, de lien avec l'autre. Elle parle d'ailleurs dans cet album 13 langues différentes. On peut entendre entre autres de l'allemand, du catalan, de l'hébreu et même du français. La chanteuse a souhaité faire de luxe un album profondément humain, réalisé sans l'aide d'aucune IA. Elle s'est donc rapprochée de traducteurs pour trouver à chaque fois le mot juste. Pour Rosalia, cet album orchestral marque un véritable tournant dans sa carrière. En tant qu'artiste, elle est parvenue à atteindre une plus grande liberté, à se détacher de préoccupations liées à sa popularité. Et l'album reçoit un accueil très positif. Mais voilà, en tant que fan incontesté de Rosalia, je me suis même fait tatouer une phrase sur le corps. Je dois vous avouer que je n'ai pas aimé cet album. Voilà, c'est dit. Il est incontestable que cet album orchestral, dans cet album, Rosalia fait un choix très audacieux. Elle traite des sujets variés d'amour, de rupture, de spiritualité. Et en même temps, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Les titres sont dans l'ensemble assez similaires et ne me procurent aucune émotion. Ce qu'on ne peut pas enlever à cette chanteuse espagnole, c'est la beauté des chants flamenco qui sont selon moi les mieux réussis. Mais ce qui était incroyable dans son précédent album Motomami, c'était l'énergie qui s'en dégageait, tant sur des sons électroniques que sur des sons plus lyriques. C'est un album qui te faisait sentir puissante, très bad bitch, et en revenant vers la sainteté, je me questionne, sans avoir vraiment de réponse claire, sur le message qu'envoie Rosalia pour les femmes notamment. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer le côté très déjanté et libéré de son précédent album à celui-ci, où Rosalia revient à l'image et au symbole de la femme sainte. Bon, pour vous faire votre propre avis, le mieux est toujours de l'écouter. Luxe est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et si vous achetez le disque, vous pourrez même découvrir des morceaux exclusifs, dont là en collaboration avec Charlotte Gainsbourg.
Un album international 100% humain, composé de 13 langues et d'un orchestre phénoménal. Rosalia a vu les choses en grand. Merci Violette. Passons aux réactions. Bon, déjà avant les réactions, Violette, déception? Comment ça?
Grosse déception, franchement.
Léa est déçue là.
Je suis déçue de ta déception en fait. J'ai beau le réécouter pour essayer de l'aimer, je n'arrive pas. Je ne ressens rien. Voilà.
C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup. Est-ce que vous, autour de la table, certains ont entendu rien que le titre Bergen, donc qui a un peu explosé sur les réseaux, et est-ce que vous avez été curieux, vous avez écouté d'autres choses, Isna, je te vois hocher de la tête.
Moi, j'avais écrit une chronique dessus juste avant la sortie de l'album, et j'ai toujours pas eu le temps de l'écouter parce que j'étais trop occupée. Mais effectivement, j'ai eu plutôt, enfin, plusieurs retours de ma part, enfin, de ma classe aussi, qui disaient qu'ils étaient aussi déçus de l'album, que pareil, la même réaction que toi, c'est-à-dire que c'était tout, qu'il se passait pas grand-chose au final, et que c'était, il y avait moins ce côté déjanté, libéré que dans l'ancien album, et donc du coup, depuis que j'ai entendu ça, j'hésite un peu à aller l'écouter parce que je l'attendais avec impatience, mais j'ai prévu de le faire ce soir.
Ok.
C'est prévu.
Fabrice.
En fait, moi, j'ai trop envie de nuancer tout ce que vous racontez parce que, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une fraîcheur dans Bergen, tu vois. C'est-à-dire que tu vois Bergen, quand tu sais ce qu'est Bergen, tu te dis, ah, ok, à quoi je m'attends. T'écoutes ça, tu te dis, d'accord, ok, il y a eu une recherche, il y a eu une volonté, et puis quand tu connais le parcours de Rosalia, elle est quand même passée par le flamenco, elle a fait du conservatoire pendant longtemps, elle a quand même fait 2 ans de recherche, tu vois, pour pouvoir créer cet album-là. Dire qu'il se passe rien, c'est peut-être être passé à côté, peut-être de ce qu'elle voulait véhiculer. C'est peut-être ça, c'est peut-être se dire, bah ok, peut-être qu'en fait j'ai raté quelque chose et que j'ai pas forcément compris ce qu'elle a voulu m'apporter. Donc je n'ai pas écouté l'album, j'ai écouté Bergen pour préparer l'émission. Mais sinon, non, j'irai voir et je suis curieux de voir là où elle a voulu arriver et surtout quel différent chemin elle a voulu prendre. Parce que je crois que son premier album était très flamenco. Je serais curieux aussi de les mettre en lumière et de voir, parce que Motomami, ça reste quand même un objet particulier.
Hortense.
Alors, moi, à part pour l'émission, je dois vivre en autarcie parce que je n'ai pas entendu parler de cet album. Mais pour réagir à ta chronique, je pense que c'est toujours un peu compliqué quand tu adores un artiste, que des albums t'ont vraiment plu au point de s'en tatouer sur le corps, d'avoir un nouvel album parce qu'en fait, tu attends forcément des trucs et puis la personne soit change, soit fait du déjà vu, donc t'es déçu de retrouver du déjà vu, puis c'est trop différent, tu retrouves pas l'artiste que t'as aimé, donc c'est toujours, je pense, un défi pour les artistes de sortir un nouvel album.
Corian?
Non, j'ai pas pris le temps de l'écouter, mais j'ai entendu parler, je voulais vraiment avoir bien le temps. Je l'ai déjà entendu parler de son album, donc ça m'a intrigué, notamment le fait qu'elle parle, je sais plus combien de langues dedans.
13.
13 langues dedans.
C'est énorme.
Elle expliquait que c'était une galère pas possible à construire tout ça. Donc ça m'a intrigué, et notamment le côté, ça a l'air aussi très diversifié en termes musical. Enfin, ou pas, je sais pas.
Bah justement, moi je trouve que non, en fait. Je trouve que tous les sons se ressemblent, et c'est justement ça qui m'a déçue. Après, peut-être que je suis passée à côté.
Ouais.
Et je trouve que Bergen, pour le coup, est différent de tous les autres sons. C'est vraiment celui qui va sortir du lot un peu.
Mais peut-être qu'ils ont commencé justement la promotion avec ça parce qu'il était un peu ses titres forts, quoi. Ouais. C'est
Mais d'ailleurs, j'y pense, en préparant l'émission, je vous ai proposé un autre titre qui, je trouvais, était intéressant dans ce que ça véhiculait en termes de titre. Et je vous avoue que Violette m'a dit « Bergen !» Donc j'ai dit « Bergen », ok.
Oui, parce que c'est celui que je prépare. Mais après, bon, moi, honnêtement, ce qui me gêne un peu aussi, c'est ce rapport vraiment très fort à la religion.
Après, je pense qu'elle a voulu justement en faire quelque chose et pas revenir. Je pense que, mais je suis d'accord avec toi qu'il est difficile à interpréter. Il y a des rien que dans le premier clip de Bergen, moi je suis passée à côté de toutes les références artistiques parce qu'en fait il y a des trucs, si t'es pas un minimum intéressé par l'histoire de l'art, tu ne les as pas.
Ouais,
donc je suis d'accord qu'il y a un côté inaccessible. Moi en tout cas, je me permets de donner mon avis parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Rosalía aussi.
Mais d'ailleurs on allait te le demander, hein, c'était pas possible.
Non mais en fait, moi il m'a quand même fait provoquer une forme d'explosion dans le cerveau. Je suis d'accord du coup que là, tout bougeait dans le cerveau et moins dans le corps comparé à Motomami. Mais du coup je trouve que c'est quand même un très beau pari parce que moi j'ai pas su où quoi faire, j'ai ressenti trop de choses d'un coup et en vrai de vrai genre c'était trop chouette. Bon, en tout cas merci à vous pour vos réponses. On voit qu'il y a gros débat autour de Lux, donc vous avez qu'une chose à faire, c'est aller l'écouter, le réécouter, le réécouter et là seulement avoir votre premier avis. Il est à découvrir d'urgence sur toutes les plateformes. Merci Violette pour cette chronique.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Vous vous imaginez poursuivre un Yeti dans les montagnes? Corian, en tout cas, nous en parle en nous présentant le film L'incroyable femme des neiges dans la rubrique cinéma.
Aujourd'hui, je me penche sur une épopée cinématographique. Effectivement, en salle en ce moment, je vais parler de L'incroyable femme des neiges de Sébastien Bedwedé.
On va vous demander de nous suivre, madame.
Tu te souviens de moi? Ton petit frère? Il paraît que tu sèmes la terreur au village depuis ton retour.
J'ai éprouvé un sentiment étrange, le sentiment de ne pas être à ma place.
Aller au Groenland, n'importe quoi.
Il s'agit du 9e long métrage de Sébastien Bedwedé qui avait notamment fait 2 automnes, 3 hivers en 2013 avec Vincent McCain pour celles et ceux que ça parle. Dans ce nouveau film, on suit le personnage de Colline Morel, exploratrice spécialiste des pôles, interprétée par Blanche Gardin. Un rôle quasiment écrit pour elle, le réalisateur ayant déclaré dans une interview que si elle n'avait pas accepté, il aurait fait un tout autre film. Colline donc décide de retourner dans son Jura natal aux côtés de son frère Basile, joué par Philippe Catherine, qu'elle avait perdu de vue. En faisant ce geste, elle espère se recentrer, peut-être écrire un livre sur ses recherches. Il est également important de préciser que Colline va mal, voilà. Elle a atteint un point de rupture qui l'entraîne dans une dépression ravageuse pour elle et pour les autres. Mais surtout, et c'est précisé dès le début, no spoil, Colline est atteinte d'une maladie incurable, pour ainsi dire, elle va mourir. Parviendra-t-elle à en parler à Basile et à Lolo, son autre frère, joué par un Bastien Bouillon particulièrement cocasse? Oui, j'ai osé utiliser ce mot.
Ok, les bases de l'intrigue, on l'a, mais est-ce que tu nous conseilles d'aller le voir ce film?
Indubitablement, oui. Alors, ça n'est pas le film de l'année, hein. Attention, mais selon moi, il mérite largement le détour. Alors, oui, parce que L'incroyable femme des neiges est un film marquant, dense, qui aborde beaucoup de sujets, peut-être trop, mais en tout cas en mélangeant les tons de façon assez ingénieuse. En effet, on y rit, parfois à gorge déployée, c'est par moments assez déjanté. Sébastien Bedwedé n'hésite pas à pousser les curseurs assez loin, faut bien le dire. Mais ça n'empêche pas au détour d'autres scènes d'être touché au plein cœur par la tendresse qui se dégage des liens montrés. En fait, c'est plus profond que ça en a l'air. On y rit, oui, des mésaventures que traverse Colline, mais le long métrage n'oublie pas de prendre sa quête existentielle au sérieux. Ce qui fait qu'il a un vrai propos, je trouve, déjà sur l'état dépressif, parce que c'est pas parce qu'une scène est drôle qu'il ne se dit pas en sous-texte des choses essentielles, mais un propos plus généralement sur ce à quoi on peut aspirer à l'aube de sa vie. Le sens de tout ce bordel, pour paraphraser le personnage. Le film mélange les tons, donc, je le disais, mais il faut dire qu'il a une construction assez atypique aussi, car il se divise en fait en deux parties. Une plus déjantée, si je devrais grossir les traits, et une plus contemplative et apaisée, qui se déroule, alors attention, au Groenland. Et là encore, ce n'est pas un gadget un peu gratuit de déplacer l'intrigue à cet endroit. C'est vraiment parce qu'il y a une cohérence entre le propos et les coutumes qui sont pratiquées là-bas. Sans faire non plus du mode de vie inuit un objet d'idéalisme, exotisme gênant. Non, on n'oublie pas de montrer par exemple une certaine occidentalisation à l'œuvre dans ce territoire. Alors cette scission au milieu de l'œuvre, je sais que ça peut en perturber certains, on peut avoir l'impression de voir deux films en un presque. Mais moi c'est quelque chose que je recherche en fait au cinéma parce que ça me semble être représentatif de l'ambivalence que je ressens dans la vie même en fait. Sinon pour parler de la mise en scène, eh bien je trouve que là aussi il y a des choses à prendre, même si bon ça monte pas non plus l'eau chaude, mais en tout cas ça a le mérite d'être assez libre, décomplexé je dirais même, avec notamment l'utilisation de zoom en plein milieu des scènes, un peu la série The Office, je sais pas si vous voyez. qui font beaucoup du tempo comique du film, et c'est quelque chose qu'il faut assumer, je trouve, qu'on ne retrouve pas partout, en tout cas. à un moment aussi, il se permet, par exemple, de raconter toute une étape de l'évolution du personnage au travers d'une succession de photos en mode diaporama. Idée qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est fait de façon très maligne. Ça permet d'en dire beaucoup sans passer par des dialogues surexplicatifs. Mélanger les médiums artistiques, le réalisateur le faisait beaucoup dans Deux automnes, trois hivers, par exemple. Là, c'est un peu moins présent parce qu'on est quand même sur un film moins indé. On sent que l'économie est plus lourde et que l'ambition est d'être un film plus grand public, je pense. Mais du coup, ça fait plaisir de retrouver ce genre de proposition formelle. Donc oui, je vous le recommande. Ne vous fiez pas à l'affiche du film, je trouve qu'elle ne vend pas très bien. Enfin, personnellement, moi, elle ne me donne pas envie d'aller le voir. Mais voilà, pour peu qu'on vous fasse partie d'une fratrie aussi, je le trouve assez touchant de ce point de vue-là.
Un film un peu fou qui nous emmène dans les plus grandes montagnes du monde. C'était L'incroyable femme des neiges. Merci Corian. Allez, passons aux réactions. Fabrice, ça t'inspire quoi, ce film ?
Non, je suis bon public, donc en fait, ça me donne envie d'aller le voir. Il y a Philippe Catherine, c'est absurde. J'aime bien, en fait, dès que c'est frais, dès que c'est un peu léger, surtout que on sait que le cinéma, dès que c'est frais, que c'est un peu léger, derrière, il y a un message. Et là, tu le dis, il n'y a pas un message, il y a beaucoup de messages. Le synopsis, il est très clair. Enfin, je trouve que ça fait du bien, ce genre de film où on cherche à travers... le comique a véhiculé plein de messages, des choses drôles et des choses vraiment sérieuses. Et justement, tu vas pas au cinéma en te disant oh, j'ai passé deux heures à déprimer sur ce truc. Non, là tu rigoles et t'es bien quoi. Donc non, ça m'a donné envie quoi.
Hortense, une réaction ?
Bah, moi je dirais un peu la même chose. Je l'ai pas vu le film, mais ce qui me donne envie, c'est justement ce côté de pouvoir un peu rendre léger des choses qui parfois sont lourdes. Tu parlais même de questions de la dépression, etc. Enfin, moi globalement c'est plus ce que je recherche quand je vais au cinéma, passer un bon moment, parce que en fait moi personnellement, genre quand les personnages souffrent, je souffre avec eux, genre ouais. Je ne peux pas regarder un truc où les gens ils sont dans des situations gênantes et tout, c'est horrible pour moi. Donc des films où les choses sont plutôt happy, où ça se passe
cool.
Bien, SVP, j'en veux plus quoi.
Isnel, ça t'inspire quoi ?
Je te rejoins.
Je vous rejoins aussi, j'aime bien ce mélange de... effectivement, on va parler de sujets sérieux et assez difficiles, mais il y a toujours à travers d'un peu d'ironie et de comique, c'est vraiment cette combinaison des deux genres que j'aime beaucoup, donc ouais, ça me donne envie aussi d'aller jeter un coup d'œil, oui, j'en avais pas du tout entendu parler.
Violette.
Comme tu dis, le titre ne donne pas particulièrement envie. Je pense
puis l'affiche, je l'ai vu aussi.
Ouais,
c'est sous 2010, quoi. C'est vraiment.
Non, mais vous êtes dur. Je trouve que l'affiche, elle est sympa.
Et on a le droit de dire ce qu'on pense.
Non, mais l'affiche, moi, je la trouve un peu random. Je l'ai vue dans le métro. Genre, tu te dis, un énième film. Certes, il y a Philippe Catherine. Cool, quoi. Genre, c'est tout.
Ouais, en fait, c'est la caution Philippe Catherine, je trouve.
Mais je suis d'accord. Moi, j'ai super envie d'aller le voir parce que Philippe Catherine. Philippe Catherine, quand même, il est vraiment, vraiment marrant, quoi. Enfin, franchement, on sait qu'on va passer un moment. Donc, j'irai probablement le voir grâce à toi. Merci de cette découverte.
D'ailleurs, il joue pas un rôle comme forcément on a l'habitude de le voir. D'habitude, enfin, il n'est pas aussi exubérant que dans d'autres films, par exemple. Il est plus calme et tout, donc ça fait aussi plaisir de le voir un peu différemment. Quoi.
Mais je le vois déjà calme.
Même
en fait.
S'il est, il joue un rôle drôle. Mais... Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il a, aussi,
il
a un truc aussi.
Calme, mais perché, quoi.
C'est
il y a une alliance quand même.
Non, mais ouais. C'est la perchitude de Philippe Catherine ouais. Qu'on veut quand on va au cinéma, quand ouais. On écoute Philippe Catherine. Moi, pareil, le premier album de Philippe Catherine que j'ai écouté, j'ai dit c'est pas possible.
C'est chronique sur France Inter aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu, oui. Mais c'est extrêmement marrant, hein, vraiment.
Direction France Inter.
Bon, et ben vous avez l'occasion de découvrir, redécouvrir Philippe Catherine dans le film L'incroyable femme des neiges. Merci Corian pour ta chronique, merci pour vos réactions. Si ça vous a plu, alors allez le voir. Ben voilà, je vous le conseille.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités. Place à l'architecture, aux arts de la scène et aux arts visuels. À tout de suite.